L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Il y a plusieurs moyens d'honorer son conjoint une fois qu'on est dans cette relation d'amour avec son conjoint. Il y a plusieurs façons de pouvoir honorer son conjoint. Et la Bible nous dit, au Proverbe 3, 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a le droit, car tu as le pouvoir de lui accorder. » Et ça s'applique à nous dans le couple. Ne refuse aucun bienfait à ton mari, à ta femme, quand tu as le pouvoir, quand tu as cette puissance en toi de pouvoir lui accorder. Et qu'est-ce qu'on peut accorder comme bienfait dans le mariage? On peut accorder des bienfaits au niveau de nos paroles, avoir des paroles qui sont des paroles d'élévation, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. On peut aussi apporter un bienfait au niveau de nos comportements, de nos attitudes, parce que la Bible dit qu'une femme sage, c'est la couronne de son mari. Mais aussi, il y a un autre honneur dans le mariage dont la Bible nous parle. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ce qui nous montre qu'autant un mariage peut être déshonoré par une mauvaise sexualité, autant un mariage peut être honoré par une sexualité épanouie. Donc oui, ce matin, nous allons parler de sexualité. C'est la cerise sur le gâteau, le glaçage du gâteau. Mais sans le gâteau, il n'y a pas de glaçage. Et puis, un glaçage tout seul, c'est pas terrible non plus. Donc ça va ensemble, c'est complémentaire. Donc une fois que vous avez construit, parce que je voudrais juste commencer par là, la sexualité c'est important dans le couple, ça fait partie du couple et ça fait partie du message du couple et c'est quelque chose que Dieu a créé. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'était sûrement quelque chose de très important, je vais vous en parler tout à l'heure. On va aller dans 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, par votre manque de maîtrise. Donc la première chose à savoir, ça c'est le plan parfait de Dieu concernant la sexualité, c'est que on puisse avoir cette conscience que une fois qu'on est marié, que notre corps ne nous appartient plus, qu'on s'offre à l'autre et qu'on ne se prive pas l'un de l'autre, si ce n'est pour vaquer à la prière. Ça c'est le plan parfait de Dieu et si tous les couples fonctionnaient de cette manière parfaite, il y aurait pas de problème. Mais la chose, c'est que beaucoup de couples rencontrent des problèmes au niveau de leur vie sexuelle parce que le modèle divin est là, mais comment l'appliquer? Comment y arriver? Alors d'abord, on va définir c'est quoi la sexualité. Parce que la sexualité, on en parle partout, dans tous les magazines, dans tous les films, partout, on parle de la sexualité. Mais qu'est-ce que la sexualité comme Dieu la voit, comme Dieu l'a créée? La sexualité, c'est la manifestation de l'amour entre deux personnes de sexe différent dans le cadre du mariage. Donc ça, c'est ça la sexualité. Une sexualité, selon Dieu, c'est une manifestation de l'amour entre deux personnes de sexe différent dans le cadre du mariage. C'est quand même assez ciblé. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas marié, si vous êtes du même sexe, la sexualité, c'est pas fait pour vous. C'est pas possible d'y entrer. Ça marche pas. C'est pas dans les conditions de Dieu. Et là, les célibataires se disent, c'est plate, c'est poche. Non, parce que Dieu a un message aussi pour vous. Dieu a prévu un message pour les célibataires, pour les gens qui sont seuls. Et la Bible nous dit, parce que oui, c'est réservé au mariage. Ça vient avec le mariage. Vous vous dites, finalement, il y a que des gens mariés, ils ont le droit à un bonus. Non, ça fait juste quand on vit à deux, la sexualité a sa place. Mais quand on vit tout seul, la sexualité n'a pas sa place, on n'en a pas l'utilité. C'est si, par exemple, Un exemple, vite. Si j'ai pas de chat, ça sert à rien que je m'achète une litière à chat, parce que j'ai pas de chat. Donc si t'as pas de mari, si t'as pas de femme, t'as pas besoin de sexualité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand même, parce que dans la pratique, c'est peut-être pas aussi simple. La vie, et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est dans le mariage, parce que là les gens disent aujourd'hui on n'est pas à peine d'attendre d'être marié, là, etc. Parce que la Bible nous dit, si on continue un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 7:9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc ce qui veut bien dire que tu peux que c'est dans le mariage que tu vas pouvoir libérer ton énergie, que tu vas pouvoir t'exprimer, et que en dehors du mariage, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative. Dieu n'a pas dit bon, sinon fais ci, fais ça. C'est comme si vraiment tu veux te marier parce que tu sais que tu n'as pas cette capacité de pouvoir rester seule, marie-toi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que t'as des désirs sexuels que la première femme que tu vois, femme, on se marie parce que je brûle. Ça se passe pas comme ça. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un avec qui tu pourrais te marier et que tu te dis, finalement, le mieux, ce serait sûrement que je reste seule, mais je sens que j'ai pas cette capacité en moi, je sens que c'est une occasion de chute. Tu vas pouvoir te marier avec la personne avec une personne que Dieu va approuver. Mais c'est pas une personne comme ça que tu choisis dans la rue parce que tu brûles et que tu prends n'importe qui. C'est pas barbare comme ça, c'est pas sauvage comme ça. La sexualité n'a rien de sauvage. Donc, et encore une fois, je continue pour les gens qui sont tout seuls, la Bible a des promesses pour vous. La Bible nous dit de livrer nos membres à la justice, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Vous semez ce sacrifice que vous faites aujourd'hui, vous le semez. Honnêtement, je suis sûre que vous aurez une récompense pour ça, de vous être abstenu, d'avoir décidé parce que vous n'étiez pas marié pour X raisons, parce que peut-être que vous êtes divorcé, peut-être que vous êtes veuve, peut-être juste vous êtes célibataire et que vous avez décidé de rester pur jusqu'à votre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Je suis certain que vous aurez une récompense par rapport à ça parce que vous aurez fait le choix de Dieu, parce que à cause de votre crainte de Dieu, vous aurez décidé de vous garder, de ne pas succomber à aucune tentation à droite, à gauche, une fois. Non, vous dites, non, je suis seule. Comme j'ai dit, j'ai pas de chat, j'achète pas de litière, je suis seule, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Pas de sexualité. Et vous marchez dans votre autorité en Christ et vous déclarez la parole. Vous dites non, le péché n'a aucune puissance sur moi et je livre mon corps pour la justice et j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, Seigneur. C'est pour toi, ce corps-là est pour toi, pour faire ta volonté. Je vais aller là où tu veux aller. Je vais utiliser mes mains pour guérir les malades. Je vais utiliser mes jambes pour aller évangéliser. Et vous vous offrez totalement et complètement à Dieu. Donc ça, c'était un message d'encouragement pour les personnes qui sont seules, mais vous pouvez quand même écouter la suite. C'est que, donc, la sexualité a une place dans le mariage à ne pas négliger. On peut pas passer à côté du message général du couple sans passer sur le sujet de la sexualité. Il y a énormément de choses à dire sur le couple. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait parler justement des paroles. On pourrait parler des actions, la fidélité, du pardon, la confiance. Il y a plein de sujets. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le message que Dieu voulait vous adresser par rapport au couple, c'était honorer son conjoint dans le mariage au travers d'une sexualité épanouie. Et la première des choses que je voudrais aborder, c'est que un mariage sans sexualité, c'est un mariage qui ouvre une porte au diable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, parce qu'il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Et un mariage où les deux sont en bonne santé, où il n'y a pas d'incompatibilité physique et qui n'expérimente aucune vie sexuelle, aucun épanouissement dans sa sexualité, c'est un mariage qui se met en danger, un mariage qui ouvre une porte à l'ennemi pour différentes choses. une des choses, les premières choses auxquelles on pourrait penser, ça va être l'adultère, par exemple. Et c'est vrai, c'est pas un mythe. Et je me souviens, une fois, on était allé avec Jérémy dans un, c'était quoi, un repas de la Saint-Valentin, truc qu'on fait jamais. Mais là, on était allé, c'était quoi? Hein? Ah ouais, on avait été invité par un pasteur qui faisait un repas pour la Saint-Valentin. Et puis, c'était vraiment drôle. C'était pas censé être une soirée drôle, mais c'était quand même une soirée drôle, finalement. Et il fallait dire des choses positives à ton conjoint, écrire des listes. Et si vous nous connaissez, Jérémy et moi, on est tellement comme ça. Donc, c'est devenu une soirée drôle. Mais là, le pasteur, il prend la parole d'un seul coup. Et puis, il était complètement aigri de la vie, complètement aigri du mariage. Et puis, il se met à parler. Il dit, voilà, la femme, là, faut pas qu'elle soit étonnée si son mari va voir ailleurs quand elle refuse tout le temps. Oh, là, tu sentais toute la frustration contenue dans cette seule parole. Et il l'a exprimé comme ça. Alors, je veux pas savoir si c'était parler de lui ou de quelqu'un d'autre, mais peu importe. Mais vous voyez toute cette frustration, cette colère qu'il avait contre les femmes, c'était assez exceptionnel. Mais dans le fond, il y a une vérité, c'est que si un homme rencontre constamment un refus de la part de sa femme, ça va créer en lui des frustrations et ça peut se manifester après par plusieurs façons. Ça peut être l'adultère, ça peut être de la pornographie, ça peut être aussi une indifférence, ça peut être des éloignements, ça peut être des pressions, ça peut être des disputes constantes. Ça crée un tas de mauvaises conséquences dans le couple. Et une sexualité épanouie va créer des bonnes conséquences, va créer des bonnes choses, puisque, comme on l'a vu, la sexualité a été créée par Dieu. Elle a été créée comme quelque chose de beau, comme quelque chose de pur. C'est quelque chose que Dieu a donné à Adam et Ève, oui, pour se reproduire, mais si ça avait été juste pour se reproduire, je pense pas que ça aurait été aussi intime déjà. Et puis c'est que on n'aurait eu aucune sensation, aucune émotion, ça aurait rien fait, ça aurait juste été un hey. Et puis allez, on fait un bébé et puis voilà, c'est fini. Comme ça, c'est une question de formalité. Non, Dieu a créé quelque chose de beaucoup plus intime. Dieu a créé une intimité dans le couple que tu peux avoir avec personne d'autre, que tu peux avoir, que tu ne dois pas avoir avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et tu te dis, Dieu n'a pas créé juste pour la reproduction, parce que déjà on se reproduirait beaucoup, mais je viens de le dire, hein. Mince. C'est que c'était pas juste pour la reproduction. Il a allié comme l'utile à l'agréable. C'est comme si tu t'achètes quelque chose, t'as besoin de t'habiller, par exemple, t'es pas obligé de t'acheter des vêtements moches. Le bonus dans l'histoire, c'est que tu peux t'acheter des vêtements qui vont te plaire, des vêtements qui vont te faire plaisir. Si tu t'achètes un qu'est-ce qu'on peut s'acheter dans la vie? Un chat? Non. Qui veut s'acheter un chat? Si tu veux t'acheter une voiture, dans l'idéal, la première chose, c'est que tu veux une voiture qui va te conduire. Mais si en plus la voiture, elle peut être belle et puis qu'elle peut répondre à tous tes besoins, que tu sais, c'est ta couleur comme t'aimes, etc., c'est encore mieux, non? Voilà. Bon, voilà. C'est que Dieu s'est pas arrêté juste à l'étape du utile. Il a rendu l'utile à l'agréable dans le sein du couple. Et quand les personnes se privent l'un de l'autre, ils vont contre la volonté de Dieu, contre la manière dont Dieu nous a créés, la manière dont le couple est fait pour fonctionner d'une façon harmonieuse, d'une façon épanouie. Et oui, ça ouvre des portes quand il y a un des conjoints qui est en famine sexuelle, il va être affamé. Et des gens affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher de la nourriture n'importe où. Dès qu'ils vont voir quelque chose, que ce soit bon, que ce soit pas bon, que ce soit comestible, que ce soit pas comestible, ils vont avoir une tentation pour le manger. Mais quelqu'un qui a tout le temps quelque chose de bon à manger chez lui va jamais avoir envie de manger un bout de gâteau qui est par terre à moitié écrasé, que tout le monde a marché dessus. T'as pas envie de manger ça parce que t'as mangé à ta faim, t'es rempli, t'as pas faim, ça te donne pas envie, ça, c'est même dégoûtant en fait. arrête de faire ça. Mais une autre personne à côté de toi qui a pas mangé depuis une semaine, qui a rien du tout, qui a le ventre creux, qui s'est rien mis sous la dent, il voit, il dit, c'est de la nourriture, ça va me nourrir, j'en ai besoin. Et là, il s'en fiche que tout le monde a marché dessus, il s'en fiche que c'est sale, il s'en fiche de tout ça, il va le manger et c'est pas bon, c'est de la mauvaise qualité, c'est quelque chose qui va être mauvais pour lui, il va avoir une sensation d'avoir été nourri, mais au final, c'est mauvais pour son corps, il va peut-être être malade, il va mourir, ou il va être, enfin bref, un tas de choses. Oui, c'est toujours dramatique. Et dans le cadre du couple, quand un conjoint est dans une famine sexuelle, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais eh ben il peut avoir ses tentations, il va avoir parce que je suis une fille donc je vais parler comme pour les hommes, mais il va avoir un homme, une femme et puis waouh, dès qu'il va avoir une fille, oh ça va être tous les signaux d'alarme sont en alarme, alors que bon. Sérieusement, mais il y a des gens, ils sont vraiment, vous rendez compte, ils sont super extrêmes, mais c'est pas par un souci de vraiment de rester dans la sainteté, c'est pas parce qu'ils veulent honorer Dieu, c'est parce que tout est une occasion de chute pour eux. La moindre chose, t'as un petit bout de peau qui dépasse, faut pas montrer ça aux frères, hein. Alors là, il faut faire, mesdames, soyez des femmes sages. La femme sage construit sa maison, la femme sage construit son foyer. La sexualité est quelque chose pour les deux. Et une femme, et je dis ça parce que souvent c'est comme ça que ça se passe pour généraliser. C'est comme ça que ça. On entend souvent, c'est que les femmes ont moins de désirs sexuels que les hommes et que les hommes vont être plus frustrés. Alors après, on peut trouver une harmonie. C'est pas non plus question de quelle fois t'entends des choses. Bah en tout cas, moi ça me choque de dire au couple, mais tu peux avoir une sexualité comme tu veux, quand tu veux, etc. Parce que là, on permet aux gens d'avoir aucune maîtrise d'eux-mêmes. Quand t'es au travail et que tu peux pas t'empêcher d'appeler ta femme ou de rentrer chez toi ou je sais pas quoi et genre 3 fois par jour, bah c'est que t'as un problème. Honnêtement, si t'es pas capable de passer ta journée au travail sans aller voir ta femme et avoir un petit moment avec elle tous les jours de ta vie, c'est peut-être que t'as des besoins qui sont un petit peu trop grands, hein, et que là tu devrais demander à Dieu de faire quelque chose. Et puis ta femme, bah ça peut peut-être la déranger, mais sans aller. Là, ce que je vous dis, c'est pas pour des gens qui sont extrêmes, d'accord. Je veux pas créer un truc trop bizarre là, que demain vous appelez tous vos femmes. Bah là, t'as pas entendu hier. Parce que quand t'as besoin de faire ça, c'est pas bon signe, tu vois. Déjà, c'est que t'es pas allé jusqu'au bout du message. Donc, tout ça pour en revenir au fait que oui, femmes, soyez sages, construisez vos foyers, et puis. Nourrissez vos hommes, nourrissez-les dans tous les sens du terme, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit à table, mais que ce soit aussi dans la sexualité. Un homme qui n'est pas comblé dans ses besoins sexuels va avoir une tentation, et même si c'est pas un homme méchant, d'accord, c'est pas forcément que c'est un méchant bonhomme tout pervers, etc. C'est juste qu'il peut avoir des plus de tentations, et c'est dangereux de le mettre dans une situation comme ça, et on ne veut pas laisser d'accès au diable. On veut faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Dieu nous appelle à honorer notre mari dans le mariage au travers de la sexualité. Et je vous dis, il y aurait tellement de choses à dire, et puis toutes les sources, etc. Pourquoi ça peut pas fonctionner? Enfin, il y aurait tellement de choses à dire. Donc là, aujourd'hui, on va juste en dire quelques-unes. Mais c'est quelque chose, une chose là, dont on va parler. Saisissez-vous-en. Et puis, méditez sur ça. Comment les appliquer pour ma vie? Comment ça peut changer dans ma vie? Parce qu'on va pas pouvoir parler de tout, mais prenez ce dont vous avez besoin ce matin. Et la deuxième chose, c'est que la sexualité, c'est pas juste, on en parlera aussi un peu plus tard, c'est pas juste un acte sexuel, c'est pas juste une histoire physique, ça va être beaucoup plus. Et ça va commencer, il y a quelqu'un qui a dit « l'amour commence dans la cuisine ». Quelle citation! Et en un sens, c'est vrai, c'est que c'est pas juste le moment M là, à ce moment-là, c'est que si un mari, mettons, tu rentres chez toi et puis tu parles mal à ta femme, tu lui dis « Ah, ton repas il est dégueu ce soir, puis t'as vu comment t'es habillée, oh là là, oh la maison est sale !» Et là, t'espères qu'en te couchant, « Hey, chérie, qu'il va se passer quelque chose, honnêtement, t'es un homme de foi, vraiment !»
autant les femmes, c'est bizarre ces femmes qui applaudissent. Donc apparemment beaucoup d'hommes font ça. Arrêtez, d'accord ? C'est pas bien, c'est pas bon ça. Je vous donne des bons conseils hein, ce matin, donc prenez des notes discrètement si vous avez besoin ou activez votre mémoire là parce que va falloir appliquer ces petits conseils là. On ne dit pas ça et puis on n'espère pas qu'après un miracle se passe. C'est très rare que ça puisse arriver. Donc les femmes ont leur rôle à jouer, mais vous les maris aussi, vous avez un rôle à jouer. Il faut être sage des deux côtés à la fois. Si, comme Jérémy l'a dit, quand tu valorises ta femme, quand tu prends bien soin d'elle, que tu remarques ce qu'elle a fait, que tu vois autre chose d'elle que juste un tas de chair, ça va la valoriser, elle va se sentir importante et puis elle va avoir envie de s'offrir à toi. Sinon, si juste tu lui parles mal, tu fais pas attention à elle, et puis le soir tu veux qu'elle te fasse un petit câlin, là tu vois, elle va se sentir comme utilisée, elle va se sentir comme un objet sexuel. Et c'est pas la manière dont Dieu voit la sexualité. La sexualité, c'est l'un et l'autre qui s'offrent à l'autre. La sexualité, c'est pas un buffet, on n'est pas chez Wantang là, où tu vas te servir à manger, d'accord, et tu prends ce qu'il te veut, ce que tu veux. Non, la sexualité, on s'offre à l'autre. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc tu vas pas chercher moi ce que je veux quand je veux où je veux et ça là là, c'est toi qu'est-ce qui va te faire plaisir? Ben peut-être que ta femme ce qui lui ferait plaisir, c'est juste que tu puisses je sais pas lui masser les pieds parce qu'elle est très fatiguée le soir, puis ça va la détendre et puis après bah ben, écoute, elle va être beaucoup plus ouverte à une soirée, tandis que si t'es là, allez, dépêche-toi, je sais pas quoi, bref, et que t'es là en train encore de la dépêcher, puis lui montrer que non seulement son repas était pas bon, sa tenue était moche, les enfants étaient pas sages et la maison était sale, et qu'en plus elle subit un échec encore, un échec supplémentaire dans sa journée, c'est qu'elle se refuse à son mari et qu'elle désobéit à la parole. Bah là, ta femme, elle se sent vraiment comme la plus nulle des nulles, d'accord ? Tout est moche, elle est moche, la maison est moche, ses enfants sont méchants, et en plus, elle sait pas s'occuper de son mari. Là, ta femme, elle se sent pas valorisée, et elle a pas forcément envie de répondre à tes besoins, pas parce qu'elle t'aime pas, mais parce que là, c'est décourageant. Donc, encouragez vos femmes, ayez une vision plus loin que la sexualité. La sexualité, comme j'ai dit, c'est pas le pilier là du mariage. C'est pas sur ça que vous allez pouvoir construire votre mariage, mais ça fait partie du mariage. C'est le glaçage, c'est la cerise, c'est le bonus du mariage. Mais c'est pas un pilier en tant que tel dans le mariage, parce que un mariage qui fonctionnerait que sur la sexualité, c'est dangereux, parce que imaginez. Et c'est pas du tout dans la volonté de Dieu, d'accord? Mais qu'il y en ait un des deux qui a un accident, et puis là vous pouvez plus avoir de vie sexuelle comme avant. Qu'est-ce que vous allez faire si votre mariage était fondé exclusivement sur ça? Si d'un seul coup tu dois faire un déplacement, comment est-ce que tu vas faire? Si d'un seul coup, si d'un seul coup ça fonctionne plus, c'est plus possible, comment tu vas faire puisque ton mariage était fondé sur ça? Et c'est pour ça que la seule fondation que nous pouvons avoir, c'est une fondation en Dieu, sur Dieu, parce que c'est le seul qui ne changera jamais, le seul qui reste le même aujourd'hui, demain, éternellement. Donc, si tu fondes même ton foyer sur le bon caractère de ton mari, sur la gentillesse et la patience de ta femme, ça, il y a des femmes à la ménopause, elles deviennent des grosses furies, elles étaient toutes gentilles, mais d'un seul coup, tu sais pas ce qui se passe à 50 ans, là, on fait plus à manger, on claque la porte du frigo, le repas est plus prêt, il y a une petite note, débrouille-toi, mets ça au micro-ondes. Attention! Les femmes à la ménopause, c'est pas rigolo. Puis il y a des hommes, et ils sont, et je vous dis là, c'est pas des choses que Dieu veut, mais c'est des choses auxquelles les couples font face. Et puis il faut s'équiper avant, faut construire son mariage avant justement pour pouvoir, parce que il peut y avoir des tempêtes dans le couple. Des hommes qui à 40 ans, et je ne crois pas dans la crise, ni dans la crise d'adolescence, ni dans la crise de la quarantaine, mais il y a des gens qui passent par là. Et puis un homme d'un seul coup, il commence à se faire des teintures. Bah, tous les hommes qui sont des teintures font pas des crises, hein, mais ils sont peut-être coiffeurs, c'est tout. Ça se peut, et puis, tu sais, ses hobbies changent d'un seul coup, il veut écouter de la musique plus cool, d'un seul coup, il veut plus aller s'habiller au château, il décide d'aller chez Urban Planet. Bon, bref, ça peut changer. Et là, qu'est-ce qui va rester de ta relation avec ta femme ou ton mari s'il y a des choses qui changent? Si ton couple est fondé sur les enfants, qu'est-ce qui se passe quand les enfants partent? Vous retrouvez là comme deux vieux, rien à voir à vous dire? Ben, les enfants sont partis. On parlera pas des enfants, on parlera pas de l'école, on n'a rien à se dire. Non, le couple doit être fondé absolument et 100% sur Dieu. Et de là vont découler tout ce dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Toute la grâce dont vous avez besoin, toute la puissance, tout le pardon, tout ce dont vous avez besoin va découler de là et selon les saisons de notre vie, selon là où on en est. Voilà. Et un manque aussi de... je veux juste terminer ça, les encouragements, c'est qu'aussi un conjoint qui ne reçoit jamais d'encouragement, qui ne reçoit jamais de compliments de son mari ou de sa femme, ben c'est ça peut l'attrister, ou même quelquefois il y en a, ils s'en rendent pas compte, mais d'un seul coup tu sors et puis ta femme elle va au travail, puis son collègue il lui dit "Hey, t'es allé chez le coiffeur, c'est beau tes cheveux." "Ouais, merci." Ben, mon mari s'en est même pas rendu compte. Et puis là, le lendemain, il lui dit, "Hey, tu t'as acheté une nouvelle jupe? Ça te va bien? T'es belle? T'as de belles jambes?" Bon, là, si un collègue vous dit ça, prenez vos distances, hein, quand même, avec lui. Mais là, la femme, elle va commencer à se sentir, "Oh, wow! Il y a quelqu'un qui remarque que je suis jolie. Il y a quelqu'un qui remarque que j'ai changé mes cheveux, que j'ai acheté une nouvelle jupe. Ça me fait plaisir." Et puis, d'un seul coup, elle va commencer à s'accoutumer à ses compliments et elle va commencer à trouver sa valeur avec cette personne. Et puis, si cette personne est mal intentionnée, eh ben, cette personne va pouvoir commencer à séduire ta femme parce qu'il investit là où toi tu n'as pas investi. Il peut jeter des semences parce que toi t'as rien fait et que c'est un terrain qui est complètement vierge. Tu dis jamais un seul compliment à ta femme. "Eh, c'est qu'elle est belle. Si elle avait pas été belle, je l'aurais pas épousée." Ben, peut-être que 20 ans plus tard, elle a besoin encore de le savoir. Elle a besoin de l'entendre de ta propre bouche. Tu es belle. Et quand, si elle l'entend pas de ta bouche et qu'elle l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, ça va peut-être lui provoquer beaucoup d'émotions. Ça va peut-être la pousser à se nourrir de ses compliments, puis à vouloir plaire à quelqu'un d'autre qu'à toi. Parce que toi, tu remarques rien de toute manière. Si t'es rasé la tête l'année dernière, t'as pas remarqué. D'accord? Elle est venue, elle se déguise avec un sac à patates, tu remarques rien non plus. Non, bon. Et puis lui, le collègue, "Oh, t'as des belles boucles d'oreilles, t'as une belle coiffure." Et là, qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Elle va commencer à vouloir lui plaire à lui et puis à développer une relation malsaine avec, même si ça va pas jusqu'à l'adultère, mais juste pour avoir ce sentiment, il y a quelqu'un qui m'apprécie, il y a quelqu'un qui voit ça en moi. Et ça devrait jamais être quelqu'un d'autre que toi, ta femme ou ton mari. Et si régulièrement tu nourris ton mari ou ta femme avec des paroles sincères, d'accord ? Des paroles sincères, t'es pas obligé de mentir non plus. Si son chemisier tu le trouves très laid, ne dis pas que son chemisier est laid, dis-lui juste "ton chemisier te va bien." C'est pas un mensonge. Travaillez là sur vos compliments. Si vous n'avez pas le compliment facile, ça vaut le coup d'y travailler, parce qu'il y a des gens, ils vous font des compliments, mais en fait, c'est des compliments qui font mal, hein, d'accord? "Ouh, c'est beau ta robe, parce que dis donc, la semaine dernière, c'était moche, hein." Ça, c'est pas un compliment qui fait plaisir non plus. Donc, pensez, il y a des gens, ils ont besoin d'être volontaires là-dedans, de vraiment se dire, ce serait bien que je lui dise quelque chose de gentil, parce que ça fait 20 ans que tu as rien dit de gentil, donc on comprend que c'est pas naturel. Donc là, ce soir, tu vas comme la regarder. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais honnêtement, t'as toujours quelque chose de bien à dire, t'as toujours une bonne chose à dire. Et puis il y a des gens, juste, ils y pensent jamais. Ils mangent un repas, ils le trouvent très bon, mais ils ont pas le besoin de te dire que c'est bon. Ils mangent et puis voilà, c'est fini. Puis il y a d'autres gens, ils mangent ton repas et puis ils ont le compliment facile. Oh, c'est vraiment bon. Oh, c'est bon. Puis ce petit goût. Et puis l'autre, il pense la même chose, c'est juste que il prend pas le temps de le formuler, que ça l'intéresse pas. Et puis quelquefois, on entend souvent dans les mariages, le mari qui parle pas. Parce qu'en général, c'est le mari qui parle pas, ça se peut. Et le mari qui parle pas, qui n'exprime pas. Ça veut pas dire que t'as un cerveau vide, qu'il se passe rien là-dedans, que t'es complètement, il y a juste une petite mouche là. Non! Sûrement, tu penses des choses. Sûrement que tu penses des choses. Sûrement, quand tu manges le bon rôti de ta femme, sûrement que t'as pensé quelque chose. au moins une petite pensée, une mini pensée. Bah là, tu vas te concentrer sur cette mini pensée qui te traverse l'esprit. T'es bon, hop, je vais le dire. C'est bon, tu vas voir, ta femme, elle va être contente, elle va te refaire un autre repas encore meilleur parce qu'elle va se sentir encouragée. Alors, c'est ça, c'est que si tu ne fais pas ce travail-là dans la vie de ton mari, de ta femme, c'est un danger. Et on va vouloir, ce vide va pouvoir être comblé par d'autres personnes. Et l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, sont faits pour investir l'un et l'un dans l'autre, pour donner à l'autre et pour recevoir du coup aussi parce que chacun donne. Et quand on regarde, si vous regardez des maisons qui sont laissées à l'abandon, des maisons où il ne se passe rien, rien de mal, mais rien de bien non plus. Il se passe rien, juste rien. Ça devient juste une ruine. Parce que tout commence, il y a la mauvaise herbe qui commence à prendre dans le jardin, et ça commence à s'effriter, tout commence à s'abîmer parce qu'il n'y a aucun entretien. Pourtant, il se passe rien de mal, mais c'est juste qu'il se passe rien. Et dans un couple, quand il se passe rien, il se passe pas vraiment rien. C'est juste que c'est tranquillement en train de se dégrader, que c'est tranquillement en train de tomber en ruine. Et puis tu vois, l'autre jour, je regardais, j'ai vu sur Internet un reportage photo sur Détroit. Détroit, des maisons, ils montraient il y a 30 ans. Et puis aujourd'hui, et c'est des maisons, des gens ont quitté, ont déserté. Et il se passe rien là-dedans. Mais c'est les maisons sont dans un état pitoyable aujourd'hui. C'est des vraies ruines parce que personne s'en occupe. Et quand tu laisses ton conjoint comme ça, c'est comme une maison, une maison que tu laisses à l'abandon et qui tombe en ruine. C'est à toi de faire un entretien. C'est à toi de t'assurer que ça va bien. C'est à toi de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Quand ta maison, il y a quelque chose qui va pas bien, il y a une porte qui grince, c'est un peu énervant, c'est agaçant. Bah, plutôt que de passer ta vie à dire c'est agaçant cette porte, et bah, tu vas t'acheter un petit produit pour que la porte elle arrête de grincer, parce que c'est gênant. Si t'as une porte de placard qui s'ouvre pas, elle s'ouvre pas cette porte, ah bah c'est dommage. Maintenant tu vas essayer peut-être de la réparer. On fait souvent ça avec des crayons ou avec des choses, tu sais pas pourquoi, ça marche pas, ça reste chez toi. Mais des trucs vraiment majeurs, là. Enfin, majeur, une porte de placard, c'est peut-être pas si majeur que ça. Mais on va garder notre exemple. Et bah, là, tu vas la réparer. Et tu vois quelque chose chez ton conjoint qui te dérange. Bah, plutôt que de passer 20 ans à te dire, ça me dérange. Et bah, tu peux peut-être investir dans la vie de ton conjoint et puis commencer peut-être à lui dire autre chose que ça me dérange. Comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut régler ça? Et puis, il y a une prédicatrice qui disait que son mari faisait tout le temps quelque chose qu'elle détestait. Elle dit, mais bon, rendu au bout de 20 ans, quand ton mari continue de faire quelque chose que tu détestes, j'appelle plus ça un défaut, j'appelle quelque chose de mignon, parce qu'il va pas changer. Non, je trouvais que c'était pas mal, finalement. Quelquefois, il y a des choses, on est juste obligé d'apprendre à vivre avec. Et c'est pas si dramatique que ça. Il y a des petites choses, c'est pas dramatique. Si toi, t'as l'habitude de fermer la porte, qu'est-ce qu'on ne peut avoir l'habitude de faire? D'éteindre la lumière, par exemple. Si t'as l'habitude d'éteindre la lumière dès que tu sors d'une pièce et que ta femme a tendance à tout laisser allumer, oh, c'est pas dramatique, hein. Je sens que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Bah voilà, vous voyez, il a appris à vivre avec parce que c'est fatigant de tout le temps de répéter Annabelle, les lumières, Annabelle, la lumière, Annabelle, là là là. Bon, du coup, ça met une mauvaise ambiance et puis moi ça me donne pas vraiment envie d'éteindre la lumière. En plus, t'as juste envie de les allumer encore plus fort et mettre le chauffage à fond dans toutes les pièces. Non, ça c'est de la rébellion, d'accord? C'est pas bien. Donc ne faites pas ça. Et donc aussi un manque d'épanouissement dans la vie sexuelle, ça va apporter des disputes quelquefois. Tout le temps c'est le moment fatidique. De toute manière tu dis toujours non. Oui, mais toi de toute manière ceci cela blablabla. Et puis finalement, ce qui était à l'origine une bénédiction dans le couple, ça devient un sujet de dispute, ça devient même un sujet pour des couples de séparation, de divorce. On en arrive là tellement ça a dégénéré, tellement ça s'est répandu sur tout le couple, dans tous les domaines de leur vie. Le soir, tu te couches, t'es fâché. Le lendemain matin, t'es encore fâché parce que il est encore là et qu'il est toujours pareil. Et puis la journée se repasse pareil. Et puis le soir, ton mari ou ta femme dit hey, ce soir, ça va être le grand soir. Non, toujours pas le grand soir. Là, ça peut amener beaucoup de frustration. Puis une semaine, deux semaines, trois semaines, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça peut créer beaucoup, beaucoup de tensions. Et c'est, y a des couples, ben ils supportent plus juste à cause de ça. Mais j'ai pas fait d'études scientifiques, mais c'est communément admis que quand des couples font l'amour, ils relâchent de la tension, il y a du stress en moins, que ça fait du bien aux deux, et puis qu'après ils sont beaucoup plus calmes. Et il y a des disputes, il y a des longues conversations, il y a des problèmes qui pourraient être réglés juste comme ça, parce que tout le monde pourrait être juste plus serein et un petit peu moins tendu. Et Dieu est intelligent, Dieu a vraiment pensé à tout. Mais encore une fois, là, si je vous dis ça et que vous rencontrez des problèmes dans votre couple, c'est chacun regarde pour soi. Je veux pas que vous entendiez ce message et puis que ce soir vous dites « Eh là, ma femme, toi le mari, blablabla ». C'est pas ça, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Moi, comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux changer l'atmosphère dans mon couple? C'est pas pour mettre de la pression sur l'autre. Parce que une des dérives, quasiment des pires qui peut arriver à cause de ça, c'est de mettre une pression sur l'autre, de mettre de la condamnation. Et là, quand on arrive dans ce domaine-là, finalement, on arrive dans le domaine de l'abus. Quand tu forces ta femme, parce que c'est ta femme et que la Bible dit que son corps ne lui appartient plus, à avoir un rapport sexuel avec toi, tu es en train d'abuser d'elle parce que c'est contre sa volonté. Oui, la parole le dit, mais si elle veut pas obéir à la parole, c'est son problème. Tu comprends? C'est son problème entre elle et Dieu. Et tu peux pas la forcer. Dieu n'a pas ce rapport-là avec nous. Il nous force même quand on se trompe. Ta femme peut se tromper en se refusant à toi. Elle peut mettre votre mariage en danger. Oui, elle peut faire une erreur. Mais toi, tu n'es pas un bourreau, tu n'es pas quelqu'un sans l'Esprit de Dieu qui est sans contrôle, sans maîtrise de lui-même pour forcer ta femme à avoir un rapport avec toi, parce que là, on tombe dans de l'abus. Et jamais tu vas construire ta femme, jamais tu vas développer une sexualité épanouie, tu vas juste assouvir un besoin physique. Et ta femme va juste se sentir abusée et humiliée, et elle aura vraiment pas envie de revivre ça. Ça n'a rien de la sexualité épanouie comme Dieu le veut. Ça n'a plus rien d'une manifestation de l'amour entre deux personnes. C'est juste une personne qui force l'autre. Et toi, tu peux te demander, est-ce que j'aime vraiment ma femme quand je fais ça? Parce que ça la blesse, parce que ça lui fait mal, parce qu'elle le veut même pas. Et même si, je vous le dis, même si elle a tort, même si ton mari a tort, tu ne peux pas le forcer. C'est mal. C'est contre la volonté de Dieu de faire ça. C'est Dieu qui va changer le cœur de ton conjoint. Et s'il le fait pas, Dieu va changer ton propre cœur à toi pour que tes désirs soient diminués, pour que tu puisses vivre cette vie sans chuter, que tu puisses vivre cette vie sans obliger ta femme ou ton mari à avoir des rapports avec toi. Parce que c'est mal, c'est de l'abus. Et l'abus, c'est mal, d'accord? Vraiment? Ça, c'est important. C'est parce que il y a beaucoup de couples qui vivent ça, et puis des femmes ne disent rien parce que la Bible dit, parce qu'elles sont sous la condamnation, et parce que souvent, quand on vit des situations d'abus, on dit rien, on peut se laisser dominer. Mais non, c'est mal. Donc si vous le faites vraiment, repentez-vous, demandez pardon et mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu comment faire pour qu'on puisse changer, comment faire pour qu'on puisse découvrir cette sexualité comme toi tu l'as prévu. Et le dernier point pour finir, c'est, on en a déjà plus ou moins parlé de tout ça, c'est de comment développer justement cette sexualité épanouie. C'est en ayant une relation humaine en dehors de la sexualité. Parce que la sexualité est juste pour le mariage. Et donc, ça veut dire que pendant tout le temps de tes fiançailles, normalement, tu as dû développer une relation qui ne comprenait aucune sexualité. Donc ça veut dire que tu as appris à connaître l'autre dans son caractère, dans ses attitudes, tu sais ce qui lui plaît, tu sais ce qui lui plaît pas, et tout ça en dehors de la sexualité. Parce que comme j'ai dit, une relation basée juste sur la sexualité, ça ne fonctionnera pas. Mais une relation, une sexualité épanouie va être épanouie parce qu'il y a une relation à la base, parce que vous êtes des amis, parce que vous êtes des complices, parce que vous vous aimez, parce que vous riez ensemble, parce que vous parlez ensemble, parce que vous faites confiance, parce que vous êtes là l'un pour l'autre, parce que vous êtes fidèles, parce que vous êtes assurés de l'amour de l'un et de l'autre, parce que tu sais que ton mari te trouve belle, parce que tu sais que ta femme te trouve beau, et tout ça c'est déjà acquis, tout ça ça a été construit et vous êtes toujours en train d'alimenter ça, mais les bases ont déjà été fondées. Et du coup ça veut dire que même si vous passez par une crise dans votre sexualité, vous allez pouvoir vous relever. Vous allez pouvoir passer au travers parce qu'il y a plus que la sexualité dans votre couple. Parce que le mariage, c'est plus que la sexualité. La sexualité fait partie du mariage, mais la sexualité n'est pas le mariage. Et le mariage n'est pas la sexualité non plus. Donc ça, c'est important. Construisez votre couple. Et si vous ne l'avez pas fait encore, si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, apprenez à connaître votre femme, apprenez à connaître votre mari. Ayez ces temps de fréquentation où vous courtisez, où vous pouvez apprendre à vous reséduire, parce que peut-être que vous êtes rencontrés quand vous avez 20 ans, c'était la seule fille de l'église, le seul gars de l'église, on s'est marié, on s'est pas posé de questions, on a fait des enfants, puis bah voilà, maintenant, bon. Mais non, Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, même si vous êtes plus âgé, vous pouvez recommencer à courtiser votre femme, à aller vite au restaurant, à avoir des petites attentions pour elle, parce que la flamme est là, il faut juste la raviver. Et là, vous allez pouvoir découvrir toute une nouvelle dimension dans votre couple. L'autre chose, oui, j'avais dit, c'est que on s'offre. La Bible dit que notre corps nous appartient plus et qu'on s'offre l'un à l'autre. Et ça, c'est capital. Quand tu t'offres l'un à l'autre en réalisant que c'est pas moi qui cherche mon intérêt, mais que je veux me donner à l'autre, là déjà tout est changé. C'est pas pour moi, mes besoins, mes ceci, mes pas besoins, etc. C'est non, je vais penser à l'autre, je vais me mettre à la place de l'autre, je vais commencer à me dire qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que peut-être la manière dont je réponds, la manière dont je peux me refuser, est-ce que ça peut le blesser? Et là, tu peux commencer à penser différemment, puis à réaliser que t'es blessante, à réaliser que toi, t'es dure avec ta femme. Et petit à petit, vous allez commencer à vous rapprocher et ça va devenir naturel. Et un des derniers points, c'est aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a des livres, il y a tout ça, etc. Et puis, il y a des bonnes choses. Mais chacun a une sexualité unique. Chacun va développer sa sexualité dans un couple. Chaque couple aura une sexualité particulière à eux, comme ils le veulent. Si pas parce que, je sais pas, il y a un site qui va dire il faut avoir des rapports, cinq fois dans la semaine. C'est ça pour que ça fonctionne bien. Si ton mari et toi, la femme, une fois par semaine, ça vous convient les deux, une fois par semaine. Mais si c'est trois fois par semaine, c'est trois fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas un modèle. Dieu n'a pas dit, c'est pas comme le calendrier des fêtes ou des sacrifices, etc. Il y a une bonne liberté là. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous calquer sur ce que la société dit, sur ce que votre copine dit, sur ce que votre mère vous a dit. Développez cette sexualité à votre image, selon vos goûts, selon qui vous êtes, sans vous mettre de pression de ce que la société dit, ce que la société ne dit pas. Chacun fait comme il veut, selon que ça reste droit devant Dieu, d'accord? Par exemple, mais je le dis quand même, ça semble peut-être couler de source pour beaucoup de gens, mais par exemple, on fait pas de l'échangisme. Ça, c'est pas possible. On fait pas des choses à plusieurs. On s'inspire pas de films pornographiques ou de magazines érotiques, etc. Parce que ça, c'est des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu, c'est des choses qui déshonorent le mariage. Mais tant que ça reste droit et beau et pur devant Dieu et que ça honore ton mariage, fais ce que tu veux avec ta femme, avec ton mari. Et puis, apprenez à vous connaître, apprenez à apprécier tous les deux, à communiquer par rapport à ça, que ce soit plus un sujet tabou. Parce que c'est un sujet souvent qui est tabou, qui fait énormément de dégâts, parce que on se sent mal à l'aise d'en parler. Mais finalement, quelquefois, une petite discussion, ça pourrait juste tout régler. Ok, tu sais, moi, c'est parce que tu me dis ça tout le temps, puis alors là, après, oublie ça, c'est fini. Et puis, là, tu peux savoir que peut-être ça fait 30 ans que tu fais ça, et que ça fait 30 ans que ta femme, elle est agacée par ce que tu fais. Bref. Tout ça pour dire que vous avez, que Dieu a une provision dans ce domaine-là pour vous chacun. Une provision unique, une provision particulière, une provision qui vous corresponde à vous. Et la dernière des choses, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre relation avant tout doit être basée sur Dieu. Et pourquoi on peut parler de la sexualité? Pourquoi on doit en parler? Pourquoi ça doit faire partie de même de vos discussions de couple, dans le sens si vous avez quelque chose à régler par rapport à ça? C'est parce que votre couple est basé sur Dieu et que la sexualité vient de Dieu. Donc ça n'a rien de sale, ça n'a rien de honteux, ça n'a rien de bizarre, ça fait partie du couple. Ça te rend malheureux dans ton couple parce que ça fonctionne pas. Et ben il faut trouver une solution parce que Dieu a prévu des projets de paix et de bonheur dans tous les domaines de ta vie. Et s'il y a un domaine qui te rend malheureux, il faut que tu puisses le traiter. Et Dieu a forcément une solution. Et la sexualité fait partie des projets de paix et de bonheur. Et juste une toute dernière chose vers laquelle je veux finir, c'est que, comme j'ai dit, il y a des saisons. Il y a des saisons dans la vie, et puis il y a des moments, je parlais de la ménopause, la crise de la quarantaine, etc. Mais il y a aussi des grossesses, les corps changent, et puis après les femmes peuvent être fatiguées. Et là, c'est un temps, Dieu sait que la femme va être fatiguée après une grossesse, Dieu sait qu'il s'est passé quelque chose d'assez chamboulant à l'intérieur de son corps, et puis un bébé qui sort, c'est quand même quelque chose, d'accord ? Un bébé qui sort, il se passe quelque chose. Et Dieu a prévu tout ça, et Dieu a donné la grâce à la femme de pouvoir sortir un bébé, et Dieu a donné aussi la grâce au mari de pouvoir supporter ce temps où la femme va se remettre dans son corps. Et vraiment, je tiens à le dire, parce qu'il y a fois on entend des choses par rapport aux grossesses, c'est un moment où ça commence à aller mal, etc., après les grossesses, parce que justement, au niveau de la sexualité, il y a des couples qui rencontrent des problèmes, mais c'est une saison, ça, d'accord? C'est juste une saison. Donc, voyez plus loin. Ma femme a besoin de se reposer. Je vais la laisser se reposer. Puis vous, femme, ton corps a besoin de se reposer, mais tu peux quand même t'occuper de ton mari. Tu peux quand même lui accorder une attention. Peut-être une attention différente, mais tu peux lui accorder une attention. Donc, je voulais juste clarifier ce petit point-là. Et puis, donc voilà. Donc, soyez bénis. Et puis, j'espère que ce message vous a béni. Et voilà. À bientôt.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec. Pour l'amour de la francophonie.